Bonsoir mes frères et sœurs. C'est une grâce que d'écouter, mais est-ce qu'on écoute? Ce matin, cet après-midi, je réfléchissais à ce texte quand il dit « Vous avez des oreilles, mais... » Alors de quelles oreilles parle le Seigneur? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Donc il fait allusion à nos oreilles spirituelles. Parce qu'on a des oreilles physiques qui nous permettent d'entendre. Vous entendez ma voix. Vous avez des yeux et vous voyez ce que vous voyez. Mais je pense qu'il y a un domaine spirituel que l'on découvre par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est comparée, vous pourriez m'aider peut-être parce que je vieillis et je ne sais pas tout. À quoi la parole de Dieu est-elle comparée? Allez, aidez-moi. À une épée? Oui. Pourquoi une épée? Parce qu'elle sépare ce qui est de l'âme et de l'esprit. Alors après, à quoi la parole de Dieu est-elle comparée? À un marteau. Pourquoi la parole de Dieu est-elle comparée à un marteau? Il faut m'aider, parce que moi je... Ça brise, le marteau brise le roc, c'est-à-dire la dureté, pas le fruit. Hein? Donc la parole de Dieu est comparée à une épée, à une lampe, oui, à une lampe qui éclaire notre sentier. Pas un flash, vous voyez, qui nous éblouit, mais ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mon sentier. Donc pas après pas, comme une lampe, vous savez, à pétrole avant qu'on avait. Alors, une épée, un marteau, une lampe encore. Un miroir, c'est vrai. Un miroir, pourquoi faire? Oui, parce que c'est facile de voir les autres, de montrer les défauts des autres. Mais un miroir, c'est personnel. On se regarde pour se voir à soi. Et je crois que ce soir, c'est le but, on pourrait continuer, il y a encore 3 ou 4 images qui nous permettent de comparer la parole de Dieu à certains matériaux, qui nous permettent vraiment de comprendre que la parole de Dieu, elle est puissante. Alors j'aimerais que nous lisions 2 textes. Le premier dans l'évangile de Luc, s'il vous plaît. Dans l'évangile de Luc, il y a, comme dans beaucoup d'évangiles, des paraboles. Une parabole, c'est une image terrestre pour expliquer une vérité spirituelle. C'est important de comprendre les paraboles. Jésus a souvent parlé en paraboles, c'est très facile à comprendre. Les enfants comprennent très bien les paraboles. C'est impressionnant comme un petit enfant peut comprendre une parabole. Et Jésus nous a parlé en paraboles, et vous allez me dire ce que vous discernez dans ces 8 versets que nous allons lire. Luc chapitre 18, verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit... Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Voilà, ça c'est le genre de parole qu'on n'aime pas trop lire. Hein. C'est pas vrai? Pendant longtemps, ça marche pas. Voilà, ça c'est le genre de parole qui est écrit. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Vous gardez ce passage, s'il vous plaît. Et on va un petit peu plus loin, dans ce même livre, au chapitre 22, au verset 31. Une affaire difficile, qui nous prouve que nous sommes parfois éprouvés. Vous le savez ça. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Donc, le Seigneur indique au travers de ce texte que notre foi peut être criblée. Le mot « criblée » en grec, c'est un mot qui signifie une épreuve, une agitation intérieure. Vous savez, il y a des épreuves qu'on perçoit. je suis dans le deuil, par exemple, je suis mal, je suis pas bien, je suis découragé. Il y a des épreuves vraiment que les autres ne voient pas. Ce sont des agitations intérieures. Ça vous est déjà arrivé d'en avoir ? Il y a des combats intérieurs. C'est vraiment pénible parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On a des combats qu'on n'arrive pas à expliquer. Des fois, tout va bien et on peut avoir un combat, un moment de lutte. Ça vous arrive, ça, à tous. Et le Seigneur nous prévient. Il dit, voilà, il dit à Simon, Simon, il a besoin d'apprendre certaines choses. Il a confiance en lui-même. Il a besoin d'apprendre à mettre sa confiance vraiment en Dieu. C'est un homme qui a fait d'énormes progrès. Mais il a encore une victoire à prendre. Comme nous, certainement, si on a fait des progrès, on a aussi des victoires à prendre. Et le Seigneur lui dit, l'ennemi, il y a un combat. Quand il parle de Satan qui l'a réclamé, Jésus aurait pu dire, écoute, tu n'auras pas ce combat, je vais l'empêcher. Est-ce que Jésus aurait pu empêcher que ce... Bien sûr, Jésus aurait pu très bien empêcher ce combat, comme il pourrait empêcher dans notre vie certaines épreuves. Mais Dieu sait ce qu'on a besoin. Notre problème, justement, il est là, c'est un problème de foi. Et heureusement que nous avons dans ce texte cette merveilleuse consolation que Jésus donne. Il l'a donné à Pierre, donc si c'est dans la Bible, il nous la donne à nous. Jésus dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Donc ce qu'il nous faut, c'est avoir une foi qui ne s'étiole pas, une foi qui ne serve plus à rien. Il y a des gens qui croient, mais la foi, ça leur sert. Enfin, ils confondent, parce que la croyance, est-ce que c'est de la foi, la croyance ? Non, ça peut l'être. Quand quelqu'un dit « je crois », ça peut exprimer vraiment une foi profonde. Il y a des gens, quand ils disent « je crois », en vérité, ils disent « mais je j'aimerais croire » ou « je doute ». « Je crois bien », mais vous savez, c'est peut-être bien oui, peut-être bien non. Et c'est des vrais combats. Mais ça, c'est un autre combat. Ça, c'est un problème d'éclairage spirituel. Et là, nous avons deux textes. Ces deux seuls textes que nous venons de lire nous montrent une chose, c'est qu'on a des combats. On a des combats intérieurs. On a des combats terribles que Dieu peut permettre. Pourquoi ? Eh bien, pour qu'on ne dépende plus de nos propres forces. S'il y a une chose que Dieu veut nous apprendre... D'ailleurs, la foi, c'est ça. Ce n'est pas la foi dans notre intelligence, dans notre connaissance. Ce n'est pas la foi dans nos prières. Ce n'est pas la foi dans nos méditations. Il n'est jamais dit « ayez foi dans vos prières ». Il n'est jamais dit « ayez foi dans votre expérience ». Parce qu'on a des expériences extraordinaires. Certains ont fait des expériences. Moi, j'ai connu une femme, elle avait été guérie 9 cancers en plusieurs années. Est-ce que ce n'est pas une belle expérience ? C'est beau ça quand même. Moi j'ai vu des gens qui ont fait des expériences plus belles les unes que les autres. Et c'est vrai que c'est beau de voir des gens qui ont fait des expériences. Mais pourtant, combien de gens ont fait des expériences et ils ont perdu la foi ? C'est pour ça qu'il n'est pas dit « ayez foi dans vos expériences ». Moi j'ai vu des gens, quand j'étais nouveau converti, j'ai vu vraiment des gens qui avaient vécu des trucs. Je me disais « mais ces gens-là, ils abandonneront jamais Dieu, ce n'est pas possible ». Et pourtant, chemin faisant, ils se sont détournés de Dieu. Pourquoi ? Eh bien parce que Dieu ne nous oblige pas. Vous pouvez faire 10 expériences, vous n'êtes pas obligé de rester fidèle à Dieu. Vous faites ce que vous voulez. La foi, c'est vraiment rester attaché à Dieu, expérience ou pas. On n'est pas obligé de faire des expériences pour avoir une grande foi. Tant mieux si on fait des expériences. Mais moi, j'ai connu des gens qui ont fait presque aucune expérience et qui étaient des véritables chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient attachés à Dieu, parce que la parole de Dieu avait été ce miroir, comme on l'a dit, ce marteau, cette lampe qui avait éclairé, montré leur vie, qu'ils avaient besoin de se préparer à rencontrer Dieu. Nous avons une foi qui peut être agitée. Nous avons une foi qui peut être perturbée. Mais cette foi, elle peut grandir. Et Jésus donc donne cette parabole et il dit, voilà, moi je vous donne une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Ça ne veut pas dire qu'il faut être à genoux 24 heures sur 24. Il y a un temps pour tout. Toujours prier, c'est un état d'esprit. Quand il est dit prier en tout temps, ça ne veut pas dire... Bon, il y a des gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut prier 24 heures sur 24? Non, prier en tout temps, ça veut dire que quand tout va bien, eh bien je prie. Quand tout va mal, eh bien je prie aussi. Quand je suis dans la bénédiction, je prie. Je suis dans l'épreuve, je prie. Je suis malade, C'est peut-être plus difficile, peut-être je prie moins, mais ça ne fait rien. Je prie quand même. Je suis en bonne santé, je prie, etc. On pourrait multiplier les cas. Prier en tout temps, ça veut dire que je dois toujours dépendre de Dieu, que je sois en vacances, que je sois en activité, etc. Donc Jésus donne une parabole pour montrer qu'il faut toujours dépendre de lui. C'est important de dépendre de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais bon, ils vont à l'église. D'ailleurs, Jésus ne dit pas, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des gens à l'église ? Vous voyez ? Il ne dit pas, quand le Fils de l'homme viendra, les chrétiens liront-ils la Bible ? Parce qu'il y a des gens qui lisent, mais ils lisent pour lire. Il ne dit pas, trouverai-je des gens avec qui se promènent avec la Bible sous le bras ? Non ! Jésus pose une question, une belle question, qui doit nous faire réfléchir. Quand il reviendra chercher l'Église, est-ce qu'il trouvera la foi ? C'est-à-dire, cette foi, cette véritable confiance. Si vous voulez un synonyme du mot foi, c'est le mot confiance. Le problème, ce n'est pas d'avoir confiance en vous, parce que vous avez fait des progrès. Il y a des gens, ils font des progrès, de suite, ils s'imaginent qu'ils sont meilleurs. C'est bien de faire des progrès, mais ce n'est pas parce qu'on fait on n'aurait pas fait des progrès qu'on ne peut pas mettre sa foi en Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous pouvez avoir passé un mois difficile. Est-ce que ça peut arriver un mois difficile ? Vous rendez compte si Dieu disait, ben oui, il vous sera fait selon vos progrès. Vous voyez, ça serait inquiétant quand même. Ça veut dire que si je m'approche de Dieu davantage, eh bien j'ai plus de probabilité d'être béni. Si j'ai passé un mauvais mois, j'ai plus de probabilité de ne pas l'être. En fait, ça va pas, ça. La foi, écoutez-moi bien, la foi, c'est la foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ce soir, vous pouvez prendre la décision de dire, moi, j'ai foi en Dieu. Vous savez, quand j'étais jeune pasteur, quand j'ai commencé à comprendre ces choses, écoutez bien, c'est un témoignage qui m'a marqué. J'avais quoi ? J'avais 28 ans, 30 ans. J'étais jeune. Oui, il y a un temps pour tout. J'étais jeune et j'ai commencé à me tenir à genoux, à me mettre devant Dieu. Tous les matins, 2 heures devant Dieu. Et le résultat, c'est pas fait attendre. Dieu a béni. Dieu a béni, vraiment, il a béni. Bon, au bout d'un mois, j'ai prié, puis il y a eu une espèce de lourdeur qui est venue dans mon cœur. Et puis dans la prière, j'ai eu cette pensée qui m'est venue, tu mets ta foi dans ta foi. Moi, je ne sais pas si vous comprenez, mais moi j'ai compris. Ce n'est pas parce qu'on fait des expériences qu'il faut mettre sa foi dans sa foi. Il faut mettre sa foi en Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Parce que quand on fait des progrès, on peut devenir orgueilleux. Vous voyez, moi j'ai fait des expériences, j'ai prié et j'ai été exaucé, j'ai prié, j'ai vu 20 jeunes se convertir à une réunion. C'était 14. Mais c'est quand même beau quand vous voyez 14 personnes nouvelles et les 14 se convertissent. Ouais, tu commences à penser que t'es meilleur que le collègue à la côté qui lui, il ne s'est même pas prêché. Et vous voyez, et ça, c'est vachement intéressant. Parce qu'il y a un verset qui dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et on croit, en fin de compte, que notre foi est en train de grandir. Et sans s'en rendre compte, on est en train de résister à Dieu. Donc, il ne faut pas mettre... Tant mieux si notre foi grandit. Mais la foi, et Jésus l'a dit, ayez foi en Dieu. Quand le Seigneur nous demande, par exemple, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est une bonne question. C'est quand on prend le pain et le vin, il est dit, éprouvez-vous vous-même. Quand il est dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ce n'est pas une introspection morbide de s'examiner soi-même. Il est dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi en Dieu. Examinez-vous pour savoir si vos regards sont tournés vers Dieu. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que je suis clair ? La foi, ce n'est pas dire oui, j'ai fait ou je n'ai pas fait des progrès. Non, la foi, mes yeux sont fixés sur le Seigneur. Et cette parabole, elle est extraordinaire. Mais bien sûr, tout ce que Jésus a dit est intelligent. Bon, ça, on le sait. Dieu parle d'une femme qui est pauvre et malheureuse, qui a un procès, mais qui a la loi avec elle. Elle a affaire à un juge qui est méchant, qui est mauvais et qui ne veut pas lui faire justice. Peut-être elle n'a pas d'argent pour payer. Alors lui, il se dégage complètement de cette affaire. Mais cette femme, elle a la loi pour elle. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle persévère. Elle persévère. Et qu'est-ce qu'il est dit ? Que ce juge unique, il va finir par lui obtenir ses droits. Et Dieu ajoute, c'est Jésus, c'est des paraboles, c'est pour nous montrer combien il ne faut pas se décourager. Et Jésus ajoute, et si Dieu, si cet homme est capable d'obtenir grâce à cette femme, à combien plus forte raison, Dieu qui est bon fera justice à ceux qui persévèrent. Et en plus, je ne sais pas si vous avez votre Bible toujours ouverte, j'aimerais que nous regardions bien quand même, parce que c'est tout ça c'est intelligent. Des fois on le lit d'une manière rapide, où on ne fait pas attention, c'est normal. Mais regardez le verset 7, verset 6. Entendez ce que dit le juge unique. Il faut réfléchir même à cette affaire, que même quelqu'un qui est méchant a été obligé de faire gain de cause à la femme. Pourquoi ? Parce qu'il y a la loi pour elle. Et nous avons... Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que nous avons des promesses. Nous avons des promesses. Les promesses, pourquoi Dieu les a faites ? Il les a faites pour lui ou il les a faites pour nous ? Il les a faites pour nous. Quand le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, ne crains rien. Vous avez vu la quantité de promesses qu'il y a dans la Bible. Il y en a tellement qu'on pourrait même se dire, mais est-ce que c'est vrai ? Oui, il y en a tellement, mais quand même, c'est vrai, bon, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup d'avertissements, il y a beaucoup de prophéties, mais il y a quand même des promesses. Et Jésus dit, mais écoutez, et Dieu, verset 7, on peut le relire s'il vous plaît, et Dieu, le Dieu Tout-Puissant, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Tardera-t-il à leur égard ? Oui, ça peut arriver, puisqu'on a vu au verset 4, pendant longtemps, il refusa. Ne fera-t-il pas justice à ses élus ? Ah, premièrement, il faut savoir, est-ce que je suis un élu ? Tiens donc, parce que là aussi, c'est une affaire sérieuse. Il y a des croyants, tous les croyants sont-ils des élus ? Voilà, c'est une question. Jésus, dans une autre parabole, il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il y a beaucoup de gens qui sont croyants, mais qui n'ont pas répondu à l'appel. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui entendent la parole et qui disent « Oui, je suis d'accord, Dieu est vivant, il a donné sa vie sur la croix en Christ, etc. » Ils sont appelés, ils se sentent un peu interpellés, tatati tatata. Mais les élus, c'est ceux qui répondent à l'appel. Est-ce que vous comprenez ? Ce sont de vrais chrétiens. Donc, la première condition de cette parabole, c'est de dire, je veux être un vrai chrétien. L'autre jour, il y a une jeune fille qui est venue me voir, elle était baptiste, elle était tombée amoureuse d'un pentecôtiste, et elle me demandait, est-ce que je peux me marier avec un pentecôtiste ? Je dis, mais le problème, ce n'est pas qu'il soit baptiste ou pentecôtiste, le problème, c'est qu'il soit né de nouveau. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce qu'il peut y avoir des baptistes qui sont très spirituels et des pentecôtistes qui ne le sont pas. Donc voyez cette façon de voir. Pourquoi je vous donne cet exemple ? Parce que Jésus, quand même, les mots qu'il utilise sont tous intelligents. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus ? Les élus, ce sont des gens, quand ils ont entendu un cantique sur la croix, comment ça ? Mais qu'est-ce que c'est cette affaire de Jésus ? C'est Dieu ? Oui ! Il est venu sur la terre dans le sein de Marie, par cette incarnation-là, sans l'intervention d'un homme. Oui, il est Dieu, oui. Il a donné sa vie pour toi, oui. Et tu le crois, oui. Et son sang te purifie, oui, je le crois. Je réponds à l'appel. Je passe par le calvaire, je serai sauvé, non pas parce que je suis catholique, évangélique ou baptiste ou autre, ou parce que j'ai fait des œuvres, je serai sauvé parce que je crois dans mon âme que le sang de Jésus-Christ m'a lavé. Vous devenez un élu à partir de ce moment-là. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort et ressuscité, tu seras sauvé. Donc les élus, ce sont des gens quand même qui sont passés par la croix. Cette parabole, on pourrait dire, oui, elle est pour tout le monde, c'est certain. Mais quand même, elle est attribuée aux chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Vous savez, accepter Jésus comme sauveur, c'est beau, c'est merveilleux. Tu es sauvé. Mais bien sûr, la palie se l'aurait dit. Mais accepter Jésus comme Seigneur, c'est vraiment accepter Jésus comme gouverneur. Il gouverne ma vie. Un seigneur, bon, en France, au Moyen-Âge, il y avait des seigneurs. Heureusement, il n'y en a plus. En France, il y avait des seigneurs. Des seigneurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils gouvernaient. Ils gouvernaient une région, ils gouvernaient une province. Voilà, il fallait lui obéir. Ils gouvernaient. Jésus, s'il est notre Seigneur, il gouverne ma vie. Qu'est-ce qu'il m'enseigne? Je ne dois pas me décourager. Eh bien, je ne me décourage pas. David, quand il était dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il faisait dans le désert, David? Il cherche l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel. Il y en a dans le désert qui disent, oh, moi j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de ces épreuves, ça fait 6 mois que ça dure, j'avais pris telle orientation, il me faut en prendre une autre, ça ne me convient pas, moi j'en ai marre, je balance tout. Non. David, il dit, dans le désert, je cherche l'Éternel. C'est ça, voir Jésus pour Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile. On a lu le texte, quand Jésus dit à Simon, Simon, tu vas traverser une épreuve difficile, tu vas avoir une agitation intérieure, et c'est sûr. C'est sûr, vous vous rendez compte? Pierre, il a renié Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Jésus avait dit, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Mais vous vous rendez compte, quand il a renié Jésus, il est parti en pleurant, il a versé des larmes amères, etc., tout en se repentant. Ce n'était pas une agitation, ça? Il a dû se dire, mais j'ai tout perdu. Et en se repentant, il a retrouvé la grâce de Dieu. Il a été agité. Et vous aussi, vous l'êtes, parce que des fois, vous connaissez, vous ne connaissez pas. Des fois, on n'est pas suffisamment peut-être enraciné, suffisamment soucieux de connaître les promesses de Dieu. C'est pour ça que moi, je vous dis, lisez la Bible. Vous trouverez des promesses. Quand vous les lirez, vous aurez de l'assurance. Je vous donne un exemple. On va lire avec moi juste un petit proverbe. Ça s'est passé j'étais pasteur à Groyé. J'avais eu affaire à une affaire difficile. Regarde. Et le matin, quelques jours avant, j'avais lu ce texte dans le proverbe 26. Regardez. J'ai vraiment fait une expérience. J'étais jeune, hein, je vous dis. J'étais jeune pasteur. Vous savez, quand on est pasteur, on fait plein d'expériences dans une église. Et je lisais, cette semaine-là, je lisais le livre des proverbes. Dans Proverbe 26, verset 2. Regardez bien, je vais vous expliquer pourquoi il faut... Parce que des fois, il y a plein de promesses, on ne les connaît pas. Donc, ça fait qu'on ne sait pas. Proverbe 26, verset 2. Alors, peut-être que ça ne va rien vous dire. Mais lisons-le. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est beau, ça, non? Alors, peut-être que vous ne comprenez pas. Je vais vous l'expliquer. On me demande d'aller prier pour une femme qui a le cancer dans la campagne. Une femme, la fille d'un paysan. J'arrive dans la ferme, c'était compliqué. Puis je discute avec la femme. Enfin, je résume, bien sûr. La femme, elle était malade. Vraiment, elle était en phase terminale. Je prie pour elle, tout ça, on discute. Elle donne son cœur au Seigneur. Et puis quand je m'en vais, son père rentre. Son père rentre, mais qui êtes-vous? Un homme dur, un homme sévère. Qui êtes-vous? Mais je suis le pasteur, votre fille m'a demandé de venir prier pour elle. Ah, ben vous pouvez prier pour moi, je suis malade. Priez pour moi, s'il vous plaît. Je lui impose les mains, vous savez comment on fait d'habitude. Je lui impose les mains, et quand je lui impose les mains, dans mon cœur, je ressens des ténèbres. Bon, j'arrête. Bon, des fois, vous savez, on se fait des idées, on se dit... Et puis je lui dis à ce monsieur, je finis de prier... Et je lui dis, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il me dit, je suis paysan. Et sa fille, elle lui dit, dis-lui ce que tu fais. Je suis paysan. Il s'est mis en colère et tout. Dis-lui que tu es un sorcier. Ah, j'ai dit, si vous pratiquez la sorcellerie, cette prière, Dieu ne l'exaucera pas, à moins que vous ne vous repentiez. Il m'a regardé, vous savez, ces gens qui vous regardent avec la méchanceté. Bon, je suis parti. J'arrive à la maison, le téléphone sonne, il me dit, Monsieur Gou, mon père, il a juré de vous tuer avec ses sortilèges. Et Monsieur Gou, il me dit, tous les gens de qui il me l'a dit sont morts. Je dis, bonjour, j'ai dit, écoutez, ne vous inquiétez pas. Je raccroche, et je dis, Seigneur, ça m'étonnerait que tu veuilles me reprendre de cette façon, sincèrement. Vous voyez que je veux dire, quand on est chrétien, bon, je sais très bien que Dieu est souverain, Mais franchement, je me suis dit, écoute, Seigneur, si tu veux me reprendre, tu me reprends, ça m'est égal, mais ça m'étonnerait que tu me reprennes de cette, que tu me reprennes de cette façon. Et j'ai de suite pensé à ce verset. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Est-ce que vous comprenez? La malédiction, on peut vous maudire, si vous obéissez à Dieu, la malédiction ne vous atteindra pas. Et c'est pas, il n'y a pas que ce texte dans la Bible. J'ai raccroché, je vous assure, 30 secondes après, je pensais à autre chose. Et un mois après, elle m'a appelé pour me dire que son père était mort. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la foi, elle vient de la parole de Dieu. La foi, elle vient de ce qu'on entend. On va le lire. C'est important. Si vous ne lisez pas la Bible, ne dites pas à Dieu, augmente-moi la foi, augmente-moi la foi. Si vous ne lisez pas la Bible, vous rencontreriez le Seigneur dans la rue et vous lui diriez, oh Seigneur Jésus, augmente-moi la foi. Je vous assure, il vous dirait, ma fille, mon fils, lis la Bible. Est-ce que vous comprenez? Regardez avec moi dans Romains au chapitre 10. Ça, c'est le verset qui fera que cette réunion vous aidera à vivre quelque chose. Regardez, Romains chapitre 10. Cette réunion, elle servira à rien si vous ne vivez pas ce qu'on va lire maintenant. Si vous ne le faites pas, avec le cœur, bien sûr. Romains 10, 17. C'est un verset que vous pouvez apprendre par cœur. Ça vous permettra vraiment d'expérimenter ce qu'on a partagé. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire de ce qu'on écoute. Oui, je le crois. Si vous ne croyez pas que la malédiction sans cause n'a pas d'effet, ça ne vous sera d'aucun secours. Mais si vous croyez que le sang de Jésus-Christ vous protège de la malédiction, je peux vous dire qu'on peut, le mal ne peut pas vous atteindre. Mais vous le croyez, ça? Si vous le croyez, il vous sera fait selon votre foi. Votre foi, pas dans votre intelligence, pas dans vos expériences, pas dans vos prières, pas dans votre méditation, la foi dans la parole de Dieu. Je le crois, la malédiction n'a pas d'effet. Si un homme inique, méchant, mauvais, qui se désintéresse, a dû faire justice, parce que cette femme avait la loi, mais à combien plus forte raison notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur, qui s'occupe de ses élus, de ses enfants. Parce qu'il y a des gens qui se disent enfants de Dieu, mais ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Jésus est catégorique et Dieu fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Ça veut dire qu'il persévère. Seigneur, tu m'accorderas. Est-ce qu'il y a une promesse? Est-ce qu'un jeune, par exemple, je suis très sérieux, est-ce qu'un jeune peut dire, Seigneur, tu as promis de donner une aide, un conjoint à un homme? Est-ce que c'est écrit? Je lui ferai une aide. Est-ce qu'il y a des promesses qui concernent le foyer? Oui, Seigneur, eh bien, tu me donnes le conjoint dont j'ai besoin. Est-ce que ça tient debout ce que je vous dis? Oui, ça tient debout. Seigneur, tu as promis de me donner la paix. Est-ce qu'il y a des promesses sur la paix? Est-ce qu'il y en a des promesses sur la paix? Il y en a un, veux-tu un, voilà. Et tu vois, Seigneur, je l'ai souvent perdue. Eh bien, Seigneur, je vais persévérer pour la retrouver. Je vais lire la parole, j'ai perdu la paix. Je me suis disputé avec le meneur de chant, je lui ai dit qu'il chantait mal. Ça a pris une tournure, c'est vrai en plus, ça a pris une tournure pas possible. Et je ne pensais pas qu'il réagirait comme ça. On s'est attrapé, j'ai perdu la paix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut que j'aille voir Michael et dire, écoute, merci pour les gens, pardon. Et on retrouve la paix. Est-ce qu'il y a des promesses sur la paix? Oui. C'est pour cela, la foi, elle vient de la parole. Si vous lisez la parole, il ne faut pas lire avec la tête, il faut lire avec le cœur. Quand vous lisez, rien n'est impossible à Dieu, ça ne sert à rien si c'est là-dedans. Il faut que vous le croyez. C'est pour cela que appliquons-nous à lire la parole. Elle est comme une épée, elle est comme un marteau, elle est comme une lampe, elle est comme un miroir, etc. Mes frères et sœurs, cette parole, elle a le pouvoir de nous éclairer, de nous montrer où nous en sommes. Un miroir, c'est pour nous montrer où nous en sommes. Vous avez jamais vu certaines jeunes filles devant un miroir? Moi, je me rappelle de mes sœurs, elles passaient. Moi, je passais devant le miroir, ça dure 30 secondes, le savon, l'eau, hop, c'est fini. Mes sœurs, elles passaient une heure. Pourquoi? Parce qu'elles se faisaient belles. Et spirituellement, quelle grâce lorsqu'on passe du temps pour vraiment que Dieu nous montre ce que nous avons besoin de voir. Alors, c'est étonnant parce que c'est quand même frustrant, c'est quand même dommage. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Et Dieu fera justice à ses élus. Et puis il pose la question, ça fait mal au cœur. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, Dieu fait une promesse. Moi, je vous le dis, c'est Dieu qui parle. Je ferai justice. Mais est-ce que vous le croyez? Puisqu'il dit, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce soir, dans sa grâce, dans ce moment de bonté, on est dans la maison du Seigneur, Dieu nous rappelle par sa parole qu'il fera justice. Gloire à Dieu. Il ne peut pas ne pas faire justice. Et même si certaines choses n'étaient pas réglées ici-bas, je peux vous dire qu'elles seront là-haut. Alléluia. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce que ce soir, vous pouvez partir en disant, Seigneur, je peux pas ne pas te faire confiance, parce que tu es Dieu. C'est compliqué. Je suis criblé, je suis agité intérieurement en ce moment. Je passe un moment difficile. J'ai des moments terribles parce que je me suis loupé. Mais Seigneur, je te fais confiance. Je ne peux pas ne pas te faire confiance. Parce que je suis un de tes enfants. Je ne suis pas évangélique ou catholique ou protestant. Je suis un élu. Vraiment, j'ai répondu à l'appel. Et je vais expérimenter ta grâce, ta bonté. Vous avez vu toutes les lettres, comment elles commencent? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Que la grâce et la paix te soient données. Vous devez, vous pouvez, c'est vous qui choisissez, vous devez partir avec la grâce et la paix, même s'il y a du crible. Oui, il y a une épreuve, mais moi je prends la grâce et je prends la paix et je vais voir ce que tu vas faire. Je crois que la foi c'est ça. Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Vous êtes d'accord pour qu'on lui demande de l'aide? Est-ce qu'il y a des promesses aussi par rapport à l'aide de Dieu? Est-ce que Dieu promet de nous aider? Ou est-ce que Dieu n'aide que les gens qui sont une élite dans l'église? Est-ce qu'il y a une élite dans l'église déjà? Est-ce qu'il y a une élite? Non, il n'y a pas d'élite. Dans l'église, on est tous pareils. Il y a peut-être des dons différents, mais on est tous sur le même pied d'égalité. On est tous égaux devant Dieu. Alors, demandons-lui de l'aide. Dieu parle des gens méchants qui sont capables d'intervenir parce qu'ils sont obligés. Alors Dieu, lui aussi, il se doit d'intervenir envers ses enfants. On ferme les yeux quelques instants. On lui demande de l'aide. On va le faire sincèrement. On est devant Dieu, il n'y aura pas d'imposition des mains. Je voudrais que vous puissiez dire, mais Seigneur, c'est vrai. Je vais lire ces choses. Je ne vais pas lire la Bible qu'à l'église. Moi, je vous encourage à prendre les psaumes et à noter des versets, des promesses. Quand je vous disais tout à l'heure que ce sorcier-là, il avait dit qu'il voulait me tuer, vous voyez, parce que j'avais lu « La malédiction sans cause n'a pas d'effet », ça ne m'a pas atteint comme un coup de poing, vous voyez, qui ne m'aurait pas touché. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Dieu fait justice à ses enfants, croyez-le. Ici, plus tard, pendant longtemps, il peut vous refuser. C'est vrai. Moi, je ne comprends pas tout, c'est pas grave. Ça fait peut-être longtemps que ça dure, mais je peux vous dire que Dieu fait justice à ses élus qui prient. Nous aimons te prier, Seigneur. Nous aimons te parler. Nous aimons lire ces textes. Nous aimons chanter des cantiques. Parce que cela nous rappelle que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu précieux. Tu es précieux, Seigneur, pour nous. Il n'y a pas que ton sang qui est précieux. Toute ta parole est précieuse. Tous tes conseils sont admirables. Tous tes enseignements nous rassurent. Tu savais qui viendrait ce soir dans ta maison. Alors accorde-nous cette intelligence de comprendre que notre foi, elle doit être en toi seul. Béni ces bien-aimés. Ils sont venus dans ta maison, certains sont venus pour te servir, eh bien, honore également leur service. Seigneur, nous sommes venus, nous voulons repartir en serrant dans notre cœur ta parole, afin de ne pas nous éloigner de toi. Bénis cet auditoire, Seigneur, et que ta parole puisse faire du bien. Continue à nous faire du bien, malgré toutes ces difficultés, toutes les fois où nous sommes criblés, Seigneur, mais nous savons que toi aussi tu pries pour nous, en plus, Seigneur. Non seulement nous avons des bien-aimés qui prient pour nous, et en plus, toi, tu nous dis que tu intercèdes pour nous à la perfection. Vraiment, Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Amen.